France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et sociologue aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leur pensée. Chaque semaine, l'un d'entre eux, l'une d'entre elles vient nous en parler. Aujourd'hui, notre invité, psychologue et psychanalyste, a choisi d'évoquer un texte que les amoureux, déçus, transis, angoissés ou fous de joie, ou tout en même temps d'ailleurs, devraient lire. Un texte qui s'adresse à celui qui, aussi amoureux soit-il de quelqu'un, reste seul avec lui-même, enfermé dans ses discours entêtants et obsédants. Un texte par bout, entrée et figure, fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes.
Personnellement, en tout cas en ce qui concerne ce livre, des fragments d'un discours amoureux, ce que j'ai voulu, à tort ou à raison, mais c'était, disons, un propos, je dirais presque entêté chez moi, je n'ai pas voulu à aucun moment et à aucun prix construire ce que j'appellerais une histoire d'amour. Parce que ce que j'ai voulu restituer ou simuler, car c'est un livre de simulation, c'est un livre qui simule un discours, j'ai voulu restituer ou simuler l'espèce de désordre de langage qui passe dans la tête d'un sujet amoureux. Le sujet amoureux, au fond, ne peut donner lui-même absolument aucun sens, il ne peut pas donner le sens d'un destin à ce qu'il vit. Bien sûr, une fois que l'épisode amoureux est fini, il est très possible de le construire rétroactivement comme un destin. Mais quand on est dedans, on est plongé dans une sorte de désordre profond, de ces sortes de bouffées d'épisodes de langage qui vous passent dans la tête, et par là même, le roman est une sorte de construction a posteriori qui falsifie cette sorte de désordre extrêmement vif, qui fait d'ailleurs que couramment, enfin le sentiment populaire depuis très longtemps, parle de l'amoureux comme d'un fou. Est-ce qu'un fou écrirait des romans ? J'en suis pas très sûr.
Bonjour Laurence Joseph.
Bonjour Géraldine Mosna-Savoie.
Bienvenue dans le souffle de la pensée, je le dis tout de suite, ça fait plusieurs semaines qu'on se rate de grève en grève, mais vous êtes ici et j'en suis ravie. Vous êtes psychologue clinicienne, psychanalyste, membre de l'Institut hospitalier de psychanalyse de l'hôpital Sainte-Anne. On vous doit récemment l'excellent essai Nos silences, apprendre à les écouter, paru aux éditions Autrement, on vient d'entendre la voix de Roland Barthes, c'était le 19 juin 1977 dans Le Masque et la Plume sur France Inter. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre sa voix ?
Ah, j'ai l'impression de le connaître tellement et de le lire si
intimement.
Souvent. Oui, quasiment. Intimement, pour, notamment pour préparer notre rencontre. Et puis, parce que c'est un livre qui m'accompagne depuis très longtemps. La première fois que je l'ai lu, je pense que j'avais 20 ans. Ça fait donc 25 ans que j'ai eu 20 ans.
On fera le calcul dans notre tête.
On calculait. C'est une rencontre toujours de l'entendre, puisqu'on le lit dans toute la complexité de ses textes, de son trajet. Et j'aime toujours, quand je l'entends, la manière dont il va ramasser, en fait, sa recherche, son exploration. Et puis, dans cet extrait, il y a un mot auquel je suis très sensible, c'est celui de bouffer. Et qu'il explique que les fragments, finalement, on passe de bouffer en bouffer quand on est dans cet état de la passion amoureuse.
Ce qui est important aussi, c'est qu'il dise qu'il n'a pas voulu faire un roman d'amour où il restitue les états de l'étape d'un amoureux, de la rencontre à la fin. Bien au contraire, il a voulu restituer le désordre amoureux. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça vous inspire, en fait, cette idée que ce ne soit pas un roman ? Et d'ailleurs, qu'ils disent, vous êtes quand même psychologue et psychanalyste, qu'un fou ne pourrait pas écrire de roman d'amour.
Alors ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense qu'un fou pourrait écrire un roman d'amour. Mais en revanche, c'est fondamental. Le choix des fragments, c'est le contraire du roman. Et ça marque surtout l'idée du fragment, l'impossibilité du récit. Parce que le récit, il demande une continuité, il demande de la diachronie, il demande un souffle qui ne s'interrompt pas. Or, quand on est amoureux, quand on est en prise avec ce sentiment, on est sans cesse interrompu. On est sans cesse interrompu par nos pensées, nos idées, nos contrariétés. Et il ne cesse d'insister tout au long des fragments sur cette perturbation permanente. et il a plein de métaphores pour en parler. Il peut dire que c'est un vol de moustiques, qu'on est dans une vision circulaire. On est comme dans une boule à facettes. Et à chaque fois qu'on se déplace un tout petit peu, on va avoir un reflet différent sur l'amoureux. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les fragments d'un discours amoureux, ça reflète énormément de solitude. Ça reflète aussi l'enfermement dans lequel on se place lorsqu'on est amoureux. Et on n'écoute personne, en fait. On n'écoute que nos perturbations intérieures. Et c'est pour ça que c'est fragmenté, parce que c'est comme à l'échelle d'une journée, le nombre de pensées différentes, disparates, contradictoires. Il appelle ça, c'est les entrées aubades ou nuages. C'est-à-dire que parfois, on se sent très heureux et très happé dans cette histoire d'amour. Et puis, tout d'un coup, on va avoir une contrariété. Un informateur, comme il nous dit, ou un potin, va venir nous déstabiliser. Et là, tout s'effondre. Et là, les idées de suicide arrivent. Et on voit très bien la rapidité, grâce aux fragments, avec laquelle on peut enchaîner ces différents moments. Barthes, c'est un clinicien extraordinaire.
Mais c'est marrant parce que lui, il n'a pas exercé comme... Pourquoi vous dites clinicien ? Qu'est-ce que vous entendez par là, Laurent Joseph ? D'autant que, voilà, lui, il a fait des études de sémiologie, de philologie. Il est connu en tant que tel. On le désigne parfois comme philosophe. Les philosophes l'étudient. D'ailleurs, j'imagine que c'est dans ce cadre que vous l'avez découvert. D'abord, en faisant des études de philosophie, avant la psychologie et la psychanalyse. Donc, pourquoi vous parlez de clinicien ?
Alors, ce qui, bien sûr, Barthes a tout ce volet-là. C'est comme ça qu'on le rencontre souvent. Mais Barthes, dans sa jeunesse, et même dans sa vie adulte, il est resté au sanatorium à cause de la tuberculose.
Qu'il a eu très jeune.
Donc, Barthes a eu des années d'enfermement dans le sanatorium, avec une vie intellectuelle riche, des rencontres qui ont été très importantes dans sa vie. Mais il a vécu, c'est ça quand même, être au sanatorium, le quotidien du corps, le quotidien de l'examen du corps, son état de santé. Je dis que Barthes est clinicien parce qu'il a un rapport au corps extrêmement fort. Et c'est pour ça que c'est bien aussi d'entendre sa voix et de se rappeler que Barthes n'habite pas que dans les livres. Mais que
à travers des mots.
Ou à travers des mots et des choses qu'on a presque fétichisées tous dans nos cultures. Et que Barthes a une expérience du corps très forte. Et je crois que dans les fragments, c'est très vivant. Il parle du retentissement, il parle de l'hypnose, il parle du tremblement, il parle du moment où notre langue se coupe, où on peut plus parler. L'autre arrive, on l'attend au café et là, on sait même pas quoi dire, en fait. Et il est là, il est devant nous, on voit son visage et on est ébloui par ce qu'il peut représenter pour nous. Sa beauté, rien que sa présence, et de cette présence, on perd la parole. Et je trouve qu'il y a un fil très intéressant à prendre dans les fragments. On va avoir le temps de le déplier là pendant une heure, mais il y a un fil très important qui est celui du corps et du souffle, justement. C'est pour ça que j'aime bien quand il dit bouffer dans l'extrait, mais il le dit aussi dans S'abîmer, succomber, qui est la première entrée des fragments, où il cherche les bouffées d'anéantissement. Et c'est très corporel, tout ça. C'est pas que intellectuel. Donc c'est intéressant aussi de penser Barthes par son côté pulsionnel, corporel, et pour moi c'est aussi un clinicien, parce que il arrive à sonder ça, là où tous les intellectuels n'en sont pas forcément capables.
Quel est le rapport entre le corps et le langage? Et je vous pose cette question à dessein, Laurent Joseph, puisque quand on est psychanalyste, quand on est psychologue et qu'on a lu Lacan, on dit quand même que on est structuré par le langage. Alors langage, c'est déjà différent. Je ne sais pas si c'est trop spécifique de rentrer dans cette distinction-là. Mais en quoi le corps, c'est aussi du langage? Alors puisque vous avez distingué l'idée qu'il ne fasse pas qu'une théorie, qu'il ne soit pas que dans l'intellect, mais qu'il soit aussi dans le corps, alors quel est le langage du corps?
Je pense que justement d'attraper le langage du corps, c'est l'un des enjeux des fragments. Pour Barthes, le discours amoureux, le corps est dedans. Justement, ce qu'il veut, c'est qu'on ne sépare pas le discours et le corps, puisque le discours, il va être teinté, il va être interrompu, il va vibrer. Il dit le langage est une peau. C'est extraordinaire, cette phrase. Je frotte mon langage contre le tien. Ça, c'est dans l'entrée entretien.
Mais tout le monde trouve ça extraordinaire comme phrase. Le langage est une peau. je lis, voilà, comme une sorte de mantra, parfois sur les réseaux sociaux, mais ça veut dire quoi, en quoi ça nous parle? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est une bonne question. Oui. En effet, il y a beaucoup de phrases de Barthes qui sont fétichisées, et c'est important de comprendre ça, justement, dans tout le travail que Barthes fait sur le langage, dans ce texte, à quel point il veut montrer que quand on est dans notre discours amoureux, qui peut être une tragédie intime ou un éblouissement permanent, il y a quelque chose qui va être de plus en plus fort, ça va être le fait de parler avec l'autre, d'être dans un entretien permanent. Mmh. Ça peut être les lettres, alors on peut penser aux correspondances amoureuses de Rilke et de Louis-Andrea Salomé, Camus et Maria Cazares, c'est-à-dire, si on lit avec précision ces correspondances, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, on voit l'attente de la lettre, on voit la reprise du mot d'avant, et aujourd'hui, bon, il y a les SMS, mais qu'importe la technologie, c'est pas l'enjeu, ça marche quand même. C'est l'idée de d'écrire quelque chose à l'autre qui sera toujours une métonymie de notre désir, qui sera toujours un appel. Et ce qui compte, c'est pas ce que je dis, c'est le fait que je le dise, le fait que je l'envoie. Et quand je l'envoie, j'attends. Et cette attente, en fait, c'est l'attente du mot de l'autre. Et c'est pour ça tout l'être tend comme dans une pointe vers cette attente. Et l'entrée attente, elle est aussi extrêmement connue.
D'ailleurs,
c'est parce que j'attends que je suis amoureux, comme si ça faisait diagnostic. Et on sait que parfois, on attend un message, mais comme le soleil qui va se lever. Enfin, c'est définitif, l'arrivée de cette réponse. Et dans la correspondance, on voit j'attends ta lettre, mais pourquoi ta lettre n'arrive pas, avec l'angoisse de la disparition et de l'absence de l'autre. Donc, le langage et l'échange des mots entre deux personnes, c'est ce qui va structurer à chaque fois une nouvelle temporalité dans l'histoire. Mais tout cela, Barthes le dénonce aussi, ça, comme une aliénation, d'être complètement asservi à la réponse de l'autre.
C'est là où il est clinicien aussi, c'est-à-dire qu'il diagnostique, mais il tente une forme de remède.
Il tente une forme de remède, dans, par exemple, on en parlera tout à l'heure, le non-vouloir saisir.
Qui est la dernière entrée.
Dernière entrée, mais qui est présente dès la première, parce que c'est très très formel, les fragments, tout est parfaitement organisé. Il tente des sorties aussi grâce à la pensée, à la philosophie de Nietzsche. Il cherche, ce qui est très intéressant et paradoxal, c'est que à la fois, Barthes en veut un peu à la psychanalyse, et à la psychanalyse lacanienne, de circonscrire l'amour à ce qu'on appelle l'imaginaire. L'imaginaire et le concept d'imaginaire est très présent dans le livre. Il en veut à la psychanalyse de faire de l'amour quelque chose d'inactuel, de faire finalement de l'amour quelque chose qui n'arrive pas à passer à une autre étape, plus saine, plus symbolique, on dirait dans la psychanalyse lacanienne, et d'en avoir fait quelque chose d'un peu fatigant finalement, et que plus personne n'a envie de parler d'amour. Et il cherche, c'est-à-dire qu'il restitue la force du discours amoureux grâce aux fragments, et en même temps, comme vous le dites, il cherche une solution parce que il se sent asservi, il se sent malheureux, il en peut plus en fait d'attendre des réponses, Barthes. Et le nombre de fois où le mot suicide est écrit dans les fragments, ça doit aussi nous, c'est un indice quand même.
Alors il faut dire aussi qu'il s'inspire beaucoup des souffrances du jeune Werther de Goethe, avec ce jeune Werther donc fou amoureux de Charlotte. Je pense que c'est une des références principales.
Bien sûr.
Pour les auditeurs et auditrices, je sais que Fragments d'un discours amoureux de Barthes, voilà, c'est devenu un classique. Je rappelle quand même qu'il est paru en 1977, que Roland Barthes avait tenu un séminaire, que c'est un livre organisé par Fragments. On trouve des entrées comme l'attente, la jalousie, la rencontre, la scène de ménage, la gêne, le suicide. Ça a été un énorme succès. 100 000 exemplaires vendus au moment de sa sortie. Vous, quand vous l'avez eu entre les mains, Laurent Joseph, pour la première fois, pourquoi avez-vous eu envie de le lire? Est-ce que c'était une demande dans le cadre de vos études, ou au contraire, justement, vous l'avez lu comme ces centaines de milliers de lecteurs, à savoir pour avoir une réponse, un diagnostic, ce que vous venez de décrire?
Je suis venue rejoindre la cohorte des milliers de lecteurs. C'était pas une demande de mon professeur de philosophie de l'époque, et en cela, j'ai complètement rejoint la volonté de Barthes qu'il exprime dès l'introduction, où il demande à ce que les fragments soient une lecture coopérative, collaborative, et il le dit en fait, on est les amoureux, on se rejoint comme, il se réfère à Alcibiade, comme tous ceux qui ont été mordus par un serpent. Toi aussi, t'as cette morsure, oui, j'ai eu mal, surtout les premières secondes, c'était terrible. Donc, on vient faire groupe, il parle d'ailleurs dans l'introduction de grégarité. C'est-à-dire que ce discours amoureux, qui peuvent être aussi nos tragédies intimes, on les vit parfois dans le secret, dans le silence. Et on ne va pas forcément en parler aux autres. Et ce livre, il a cette fonction extraordinaire de nous faire sortir de notre solitude, de nous permettre de faire groupe. Et il y a une fonction d'identification, qui est aussi une des facultés de l'imaginaire, une force d'identification, c'est la force de frappe de ce livre, je pense, où on se dit « Ah, je ne suis pas seule ». Mais lui aussi, en fait, il a attendu dans un café et il n'y avait plus de bruit dans ce café parce que la seule chose qui comptait, c'était que l'autre arrive. Et je pense que cette expérience de sidération, de monde dissocié qu'il va raconter, de ce moment de grande solitude, et il y a un mot que j'aime beaucoup dans les fragments, c'est celui de local. Il reprend ça à Ignace de...
J'ai vérifié, en fait, je ne connaissais pas du tout ce terme, j'ai regardé dans le dictionnaire. Local, écrit L-O-Q-U-E, accent grave, L-E. Voilà, je me suis pas
tout à fait
vous hochez de la tête. Ça veut dire banalité, en fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose plutôt du ressassement aussi,
voilà,
dans la locale.
Exactement. Dans la locale, il y a le ressassement, qui peut être aussi le ressassement comme dans une prière, peut-être. Mmh. Et puis, il reprend aussi ce mot de méricisme. Alors, quand le méricisme, c'est le fait d'avoir des renvois, en fait, de pas pouvoir digérer quelque chose. Et ça concerne les nourrissons. Non, mais Barthes connaît très bien
oui.
le corps.
Oui, oui.
Et donc, le méricisme et la locale, ça marque, en fait, l'intoxication amoureuse, quasiment. C'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir chasser certaines pensées. Donc c'est pour ça que je parle de boule, de sphère, d'enfermement intime quand on est dans la passion amoureuse. Et donc je l'ai lu, voilà, pour répondre à votre question. Je l'ai lu à 20 ans, pour la première fois.
Est-ce que ça vous a aidé ?
Oui, ça m'a aidée et je crois que ça m'a permis de me sentir moins seule, de rejoindre la communauté universelle des amoureux et des amoureuses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le prescris à mes patients. Les deux livres que je prescris le plus à mes patients, c'est celui-ci, Fragment d'un discours amoureux, et c'est celui de Claire Marin aussi, Rupture, qui a été aussi un immense succès. Mmh. Et je pense que Claire Marin aussi, en écrivant cet essai Rupture, elle est venue chercher des milliers et des milliers d'expériences intimes, de rupture, de dévastation, d'anéantissement, cette idée de s'abîmer, de disparaître en même temps que l'autre disparaît dans notre vie, et que c'est ce geste de certains philosophes qui viennent aussi à la rencontre des sujets de manière extrêmement forte intellectuellement et fine aussi.
Que vous disent vos patients une fois que vous leur avez conseillé de lire Claire Marin et Fragment d'un discours amoureux de Barthes ? Est-ce qu'ils reviennent moins seuls ?
Oui.
Parce que c'est vrai, vous l'avez dit, Laurent Joseph, le grand paradoxe de l'amour tel qu'il est décrit ici par Barthes, c'est que l'amoureux est seul avec lui-même. Il est amoureux de quelqu'un d'autre. Mais il est seul avec lui-même. C'est un peu comme il n'y a pas de rapport sexuel de Lacan, d'une certaine manière. Il n'y a pas de rapport, en fait. On n'arrive pas à être en contact avec l'autre.
On n'arrive pas à être en contact avec l'autre. Et pour répondre à votre première question, ce que me disent les patients, c'est merci, bien vu. Bien vu, Laurence. Cette idée aussi, par exemple, il peut y avoir des séances avec les patients qui vont parler du dernier cadeau ou de la dernière chose qu'on va donner à quelqu'un avant de se quitter. Quand la rupture se fait dans les mots, qu'elle se fait proprement et non pas par le fading, comme dirait Barthes. On dit ghosting aujourd'hui, mais je trouve que fading, c'est aussi très intéressant, enfin. Et c'est des petites choses qu'on va se donner qui vont témoigner des quelques mois, des quelques années ou des beaucoup, beaucoup d'années qu'on a passées ensemble. Et ça peut rejoindre ruban, fétiche dans les fragments du discours amoureux. Donc, d'un discours amoureux. Donc, je n'hésite pas, en fait, à conseiller ça dans le sens, ça donne du symbolique. Ça enrobe, ça enveloppe. En fait, la tristesse immense que ça peut être de quitter quelqu'un et de s'arracher à...
Et même d'être amoureux.
Et d'être amoureux.
Alors, avant ça.
Bien sûr. Et il faut voir cette question-là que vous avancez, j'y ai pensé en me disant mais Barthes, quand même, il nous présente ça comme une catastrophe d'être amoureux aussi. C'est extrêmement triste. Mais mais c'est un discours amoureux, c'est pas le discours amoureux, c'est un, et puis c'est un amoureux qui parle et qui dit il nous dit, c'est il ne sort pas de la vision de sa propre loquelle, de son propre méricisme. Et dans un des articles qu'on va voir ensemble, je crois, après, dans le Je t'aime, ou dans l'inconnaissable, ou dans l'inexprimable, il prouve à quel point il y a des sorties possibles. Et une de ces sorties possibles, pour sortir de la solitude, il faut apprendre à parler, il faut apprendre à dépenser ses mots, et il faut apprendre à dire je t'aime.
Eh bien, on va tout de suite écouter un extrait du Je t'aime.
Je t'aime. La figure ne réfère pas à la déclaration d'amour, à l'aveu, mais à la profération répétée du cri d'amour. Passé le premier aveu, « je t'aime » ne veut plus rien dire. Il ne fait que reprendre d'une façon énigmatique, tant elle paraît vide, l'ancien message, qui peut-être n'est pas passé par ces mots. Je le répète hors de toute pertinence. Il sort du langage, il divague. Où ? Je t'aime est sans emploi. Ce mot, pas plus que celui d'un enfant, n'est pris sous aucune contrainte sociale. Ce peut être un mot sublime, solennel, léger. Ce peut être un mot érotique, pornographique. C'est un mot socialement baladeur. Je t'aime est sans nuance. Il supprime les explications, les aménagements, les degrés, les scrupules. D'une certaine manière, paradoxe exorbitant du langage, dire « je t'aime », c'est faire comme s'il n'y avait aucun théâtre de la parole. Et ce mot est toujours vrai. Il n'a d'autre référent que sa profération. C'est un performatif. « Je t'aime » est sans ailleurs. C'est le mot de la dyade, maternelle, amoureuse. En lui, nulle distance, nulle difformité ne vient cliver le signe. Il n'est métaphore de rien. « Je t'aime » n'est pas une phrase. Il ne transmet pas un sens, mais s'accroche à une situation limite, celle où le sujet est suspendu dans un rapport spéculaire à l'autre. C'est une holophrase. Quoique dit des milliards de fois, « je t'aime » est hors dictionnaire. C'est une figure dont la définition ne peut excéder l'intitulé. Le mot, la phrase-mot, n'a de sens qu'au moment où je la prononce. Il n'y a en lui aucune autre information que son dire immédiat, nulle réserve, nul magasin du sens. Tout est dans le jeter, c'est une formule. Mais cette formule ne correspond à aucun rituel. Les situations où je dis « je t'aime » ne peuvent être classées. « Je t'aime » est irrépressible et imprévisible.
Après le bip.
Je t'aime, l'entrée des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes lu par Nicolas Berger avec ce petit mix de chansons. Donc vous connaissiez Eduardo, Je t'aime le lundi, Je t'aime le mardi, chanson très premier degré que moi je ne connaissais pas, qui paraît quand même d'illustrer effectivement la prolifération de cette formule Je t'aime, mais que Barthes, avec ses quelques lettres, parvient en fait à déployer un ensemble de sens. Voilà, on pourrait mettre, je pense, 10 jours à analyser ces 2 minutes de texte,
c'est,
Joseph.
C'est incroyable. C'est très technique, en fait. Déjà, il faut savoir que l'entrée « Je t'aime » fait 8 pages.
C'est une des
dans
plus
les
longues.
Fragments. C'est une des plus longues. Et elle est vraiment complexe. C'est-à-dire que là, c'est vraiment du génie. C'est du grand art, c'est 8 pages. Et on va peut-être voilà, essayer de les préciser ensemble, oui. Mais comme vous le dites, ça prendrait 10 jours. En revanche, ce qui me passionne vraiment dans ces 10 pages, c'est de voir Bart qui pense, c'est de voir Bart qui cherche. Il cherche la sortie, il cherche comment faire. Il va chercher Nietzsche, il va chercher la mystique, il va chercher la sémiologie pour commencer, en disant, voilà, je t'aime, on peut pas faire sujet-verbe complément. Il va même chercher un mot hongrois, je t'aime en hongrois, svetlerek, quelque chose comme ça, pour montrer que le français est une langue agglutinante, c'est-à-dire que même si elle a séparé les trois mots, il faut les penser ensemble, qui sont inséparables. Et c'est sa première manière pour nous exprimer que « je t'aime » n'est pas un mot comme les autres, enfin que ce n'est pas une formule comme les autres, et qu'il faut le comprendre dans sa résistance au langage et dans sa forme compacte. Et donc il cherche un statut particulier dans le langage. Et il dit, cette phrase est trop pulsionnelle pour être une phrase, mais elle est en même temps trop criée pour être seulement une interjection ou une onomatopée. Donc, il trouve un statut particulier au « je t'aime » qui va être celui de la profération, qui est proche un peu du cri, mais on va proférer. Et alors ensuite, dans toute l'entrée, il va chercher la meilleure temporalité, le meilleur dispositif pour dire « je t'aime ». Quand est-ce que ça va bien se passer ? Alors, catastrophe si l'autre ne répond rien. Alors là, il
on
dit,
va revenir sur cette dimension d'adresse, parce qu'il y a le « te », le pronom, en fait. On oui. interpelle quelqu'un, mais souvent, en fait, on parle dans le vide.
Alors, il l'écrit, Bart, il cherche le scénario idéal, le fantasme ultime, qui serait la simultanéité de la profération. Et il explique que cela doit avoir lieu dans un éclair unique. Donc, vous voyez à quel point la symétrie, finalement, se gonfle, parce que l'imaginaire, c'est le territoire de la symétrie. On doit ressembler à l'autre, on doit porter les mêmes vêtements, on doit dire les choses en même temps. Et il le dit à un moment, il voudrait que l'autre soit dans le même sac de peau que lui. Il y a quand même une dimension utérine assez forte. Mais l'enjeu dans ce « je t'aime », c'est que cette blessure originelle de l'amour et de l'autre naisse dans un temps absolument simultané et s'adresse l'un à l'autre. Et que les voix, finalement, se confondent. Ça, c'est le rêve.
Le scénario idéal.
C'est le scénario idéal que Bart construit au fur et à mesure de l'entrée.
Mais alors, quelle est la réalité? Sachant que quand je dis quelle est la réalité, on est encore quand même dans le fantasme du sujet amoureux. Qu'est-ce qui se passe alors pour lui?
Alors,
il dit je t'aime.
Ensuite, pour lui, ce qui se passe, c'est qu'il va sortir. Le je t'aime, il le dit, il chute, il est hors dictionnaire. Ça, on l'a entendu dans l'entrée. Et on chute en dehors du langage. Il dit le je t'aime, c'est du côté de Dionysos. C'est du côté de la dépense. C'est-à-dire qu'on va arrêter ces jeux de miroir, ces jeux de reflets, cette angoisse, cet asservissement au discours de l'autre. Et on va tout, il appelle ça la dépense. Il dit beaucoup le mot dépense dans les fragments.
On est quand même proche aussi de Georges Bataille, de ce point de vue-là. Il y a quelque chose de l'ordre du donner.
Exactement. On donne, on ne compte plus.
C'est le jeter.
Exactement. C'est le jeter. Et pour lui, ça nous permet de sortir, il nomme cela l'économie noire de l'amour. Dans le noir, il y a aussi la mélancolie, la bile noire. Mais on sort de l'économie noire et justement, on dépense, on lâche. Alors pour lui, ce qui est assez intéressant, ça fait partie des zones de recherche, des fragments qui me passionnent, ce hors langage, il y a le « je t'aime », il y a « amen ». Et il y a le haïku. C'est les trois polarités du hors-langage. Mais le « je t'aime », c'est le premier moment où on s'arrache à l'inquiétude et on passe dans cette adresse à l'autre où on ne compte plus. Et ne plus compter, c'est aussi devenir libre. Et c'est ça, c'est là-dessus qu'il achève l'entrée « je t'aime ».
Ce que je trouve frappant avec le « je t'aime », c'est que quand on le dit à quelqu'un, on cherche quand même à lui dire quelque chose. Or ici, Bart nous dit « mais « je t'aime » ne veut rien dire ». Une fois que vous l'avez prononcé, il ne veut plus rien dire non plus. On peut d'ailleurs, il dit, socialement baladeur. On peut le dire à plein d'endroits différents. Il y a quand même trois caractéristiques qu'on a entendues. Socialement baladeur, performatif, holophrase. Mais paradoxalement, cette formule est presque vide. Alors ça, c'est quelque chose qui me fascine. Qu'est-ce qu'on cherche à dire quand on dit « je t'aime » alors que Bart nous dit « vous ne dites rien ».
Il nous dit, oui c'est très beau ce qu'il dit, c'est socialement baladeur, ça peut être tragique, ça peut être pornographique, ça peut être érotique, parce que je pense que ce « je t'aime » justement affirme un changement de statut du sujet. C'est pour ça que je dis que c'est un moment de liberté, c'est un franchissement, c'est un passage, c'est aussi se montrer nu psychiquement devant l'autre, c'est s'affirmer, il y a une grande force du « je t'aime » du côté du « oui nietzschéen » aussi, c'est s'affirmer, c'est la puissance de l'affirmation, c'est être actif. Il le dit, le reste du temps on est passif, on a peur, on tremble de la présence de l'autre dans ce café, on est sidéré, on rit même plus à Coluche, c'est tout ce qu'il raconte. Et là en fait on est affranchi, on est actif, on est dans l'affirmation de notre amour et finalement, peu importe la suite, on a dit ce qu'on avait à dire. Et je pense que donc on est dans une autre posture subjective par rapport à l'autre. Et je pense que c'est là où il sent quelque chose de possible et de libre.
Mais il a une vision extrêmement pessimiste de l'amour quand il dit qu'on est passif en permanence. Est-ce que c'est si vrai que ça, Laurent Joseph ? Et puis, à l'épreuve aussi de l'époque, à l'épreuve des années qui passent, des redéfinitions de l'amour, des critiques aussi, des modèles traditionnels de l'amour, est-ce que ce « je t'aime » tel qu'il l'a dit résiste à ça ?
Ah, c'est une très bonne question. On est obligé de partir aussi de l'expérience singulière de Barthes, qui n'a jamais vécu en couple, qui a vécu avec sa mère jusqu'à la fin, sa mère qui allait mourir quelques mois après la parution des fragments. Donc, il a aussi, lui, l'expérience du « je t'aime » comme une suite de ses expériences, de ses rencontres amoureuses qui... pour lui, commence toujours par l'hypnose. En fait, il faut voir dans quel état passionnel il vit avant la publication des fragments, et pour le séminaire qu'il a préparé, et pour certaines histoires d'amour qu'il a vécues. Il avait des grandes fiches, ça je pense que c'est important que les auditeurs s'en rappellent, il avait des grandes fiches où il marquait, en fonction des personnes, ou pour une personne en particulier, ce qu'il avait vécu. Il le dit, je prends pour guide la conscience de mon émoi.
Donc il dit de quel point de vue il parle, de quoi
exactement.
Il parle.
Il parle de son émoi, il parle de ses errances. Et donc pour lui, ce « je t'aime », c'est quelque chose par lequel il sort, j'allais dire la tête haute, et il sort peut-être plus serein. Ça représente des paliers de quiétude et de sérénité. Et on en parlera sûrement avec le silence, c'est le côté siléo, c'est être posé, regarder, le non-vouloir saisir, accepter comme on peut être traversé par l'amour. Écoutez, je sais pas si l'amour change énormément. Moi, ce que je vois, c'est que je peux avoir des patients et des patientes de toute lutte politique, de tout bord. Je veux dire des gens qui peuvent être des personnes très féministes, des gens qui sont justement très au courant de ce que peut être l'aliénation, de ce que peut être le discours patriarcal, les mensonges, les abus. Et d'ailleurs, c'est qu'on aime un homme, une femme. Barthes, justement, il gomme les genres parce qu'il veut universaliser cette expérience amoureuse. C'est ce qu'on disait au début de l'émission. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire. Que l'amour reste identique, quelle que soit notre conscience intellectuelle.
Ça, c'est vraiment intéressant parce que Barthes n'a pas voulu faire une théorie de l'amour. Il n'a pas voulu essentialiser l'amour. Et, mine de rien, en fait, il parvient quand même à dire quelque chose d'essentiel de l'amour. C'est-à-dire qu'un « je t'aime », sauf à l'interpréter différemment, c'est-à-dire non plus comme une pure passivité à quelqu'un qui nous domine, mais comme un acte actif, aurait quand même, déterminer quelque chose qui serait éternel dans l'amour.
Je crois et je pense que son but, c'est pas d'essentialiser, pas que essentialiser.
Je dirais quintessence.
Exactement.
D'avoir saisi quelque chose
et l'idée du fragment où il espère que nous, amoureux, amoureuses, on va écrire autour de son texte. Et je pense que la dimension ouverte, notre possibilité de nous identifier à certains passages, elle fait que dans la collaboration, le contrat avec le lecteur, ce passage de relais, comme il le dit, on peut aussi, nous, comme amoureuses et amoureux, réfléchir davantage à notre expérience amoureuse, en mesurer parfois l'aliénation, et donc finalement gagner en liberté. Et c'est peut-être ça qu'il a attrapé, en fait. Il a attrapé ce partage, ce côté de prophylactique, j'allais dire, qu'on se mette pas trop en danger. Et je crois que c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Barthes à 20 ans. Je me suis dit, oulalalalala, Laurence, où tu vas, là?
Oui. Mais parce que moi, quand même, à la lecture, alors je pense que c'est une chose qu'on fait peu. J'ai vraiment lu les fragments d'un discours amoureux dont j'avais lu quelques entrées auparavant, mais je l'ai vraiment lu de A à Z, si je puis dire.
Exactement.
Et alors, c'est assez dans le ressassement. J'avoue que la lecture est presque ennuyeuse au bout d'un moment. Il vaut mieux y aller effectivement par entrée, mais je me suis dit, Barthes a une vision pessimiste, il y a pas les objections que j'aimerais lui faire, c'est et l'amour au quotidien et l'amour
mais il
l'a heureux
jamais connu.
Et l'amour en fait, il pense l'amour par début et par fin. L'idée quand même d'Espérance du jeune Werther, c'est quand même un amour qui est romantique. Il y a pas que l'amour romantique. Ça effectivement, c'est aussi un reproche, on pourrait lui dire peut-être que là on n'est pas dans la quintessence. Paradoxalement, c'est à la fois la quintessence de l'amour,
c'est la quintessence de la passion.
De la passion. Voilà, mais voilà. Est-ce que c'est vraiment ça l'amour?
Alors, il y a deux choses à dire. Il y a une entrée qui s'appelle la Gradiva, qui fait écho au récit de Jensen et à l'article que Freud a écrit sur la Gradiva. Et il explique que la Gradiva, elle est
Qu'est-ce que c'est?
Alors, je vais raconter. Oui. Donc, c'est un homme qui s'appelle, je schématise, c'est un homme qui s'appelle Norbert et qui pense voir la Gradiva, donc qui est une femme qui est dans un bas-relief avec le pied en avant, c'est ça, elle est en train de marcher. Et il rêve qu'il peut la sauver de l'éruption du Vésuve, mais il n'y arrive pas. Bon, il tombe fou amoureux de ce bas-relief et il a le sentiment, il l'hallucine en fait. L'hallucination, c'est très présent dans les fragments. Et en fait, c'est pas elle qu'il voit, mais c'est son amoureuse, Zoé. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que Zoé, elle est vraiment amoureuse de Norbert et elle l'aime en même temps. Pourquoi elle l'aime? Si, il parle justement de l'amour long, qui va être l'amour maternel. Mmh. Cet amour long, Zoé, elle fait semblant d'être la Gradiva. Et il dit, ce moment de la Gradiva, c'est un peu la cure analytique. C'est-à-dire, quand on va écouter notre patient, on va écouter même quand il déraille, on va écouter sa folie amoureuse. Et Zoé, de prêter son corps et sa présence à faire semblant d'être la Gradiva, à supporter le délire de Norbert, ce qui va lui permettre finalement petit à petit de quitter son délire et de comprendre que ce n'était pas la Gradiva, mais Zoé, et un souvenir refoulé de son enfance, passons. Mais c'est ce moment où aimer, justement, c'est supporter l'autre, supporter au quotidien l'autre. Alors que la Gradiva, elle va davantage incarner la passion. Par rapport à l'amour long dont vous parlez, il y a une pièce maîtresse, des fragments qu'on ne doit pas oublier, nous, lectrices passionnées, c'est l'amour maternel. Et il le dit à un moment, moi je suis seule et je suis seule à vouloir téter le sein de ma mère. Il y a des passages où, quand il parle de partager le même sac utérin,
oui.
Il y a des passages où la figure de sa mère, qui est extrêmement malade et souffrante pendant qu'il écrit les fragments, elle est extrêmement présente, elle est là, elle est active. Et pour Roland Barthes, c'est le grand amour, c'est son grand amour qui dure, c'est pas la passion amoureuse.
D'ailleurs,
c'est
dans le Je t'aime, il parle d'une dyade, voilà,
exactement.
Je t'aime, c'est le mot de la dyade, entre parenthèses, maternelle. Amoureuse.
Exactement. Et lui, il y a toute une... Alors, on disait au début, on peut lire les fragments avec la ligne du corps, avec Barthes clinicien, mais on peut aussi voir le Barthes dans cette dyade maternelle très forte.
On va écouter, on passe du « Je t'aime » à cette dernière entrée, le nom « Vouloir saisir ».
Vouloir saisir. Comprenant que les difficultés de la relation amoureuse viennent de ce qu'il veut sans cesse s'approprier d'une manière ou d'une autre l'être aimé, le sujet prend la décision d'abandonner dorénavant tout vouloir saisir à son égard. Pensée constante de l'amoureux, l'autre me doit ce dont j'ai besoin. Cependant, pour la première fois, j'ai vraiment peur. Je me jette sur mon lit, je rumine et je décide, dorénavant de l'autre, ne plus rien vouloir saisir. Le NVS, le non-vouloir saisir, expression imitée de l'Orient, est un substitut retourné du suicide. Ne pas se tuer d'amour veut dire prendre cette décision de ne pas saisir l'autre. C'est le même moment où Werther se tue et où il aurait pu renoncer à saisir Charlotte. C'est ça ou la mort. Moment donc, solennel. Il faut que le vouloir saisir cesse. Mais il faut aussi que le non-vouloir saisir ne se voie pas, pas d'oblation. Je ne veux pas substituer à l'emportement chaleureux de la passion la vie appauvrie, le vouloir mourir, la grande lassitude. Le NVS n'est pas du côté de la bonté. Le NVS est vif, sec. D'une part, je ne m'oppose pas au monde sensoriel, je laisse circuler en moi le désir. D'autre part, je l'accote contre ma vérité. Ma vérité est d'aimer absolument, faute de quoi je me retire, je me disperse, comme une troupe qui renonce à investir. Et si le NVS était une pensée tactique, enfin une ? Si je voulais toujours, quoique secrètement, conquérir l'autre en feignant de renoncer à lui, si je m'éloignais pour le saisir plus sûrement.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes, paru en 1977. Nous sommes dans la dernière entrée, Laurent Joseph, le vouloir saisir, mais Barthes a cette trouvaille géniale. Il nous parle de NVS, on dirait un acronyme d'entreprise. Et en fait, c'est un concept imité de l'Orient, nous dit-il, avec cette circulation du désir. Il faut rappeler quand même que Barthes était très influencé par le taoïsme. Il en parle d'ailleurs dans cette entrée. Alors, cette entrée, pour moi, Laurent Joseph, on est à la fin. Et vraiment, il y a comme là une évolution. On est moins dans la passion que dans quelque chose quand même de plus apaisé ici.
Absolument, et c'est passionnant. Je reviens toujours à l'architecture des fragments, oui. C'est une marotte personnelle. Il commence avec Werther, avec les souffrances du jeune Werther. Et puis, il finit avec le NVS, avec un mystique allemand qui s'appelle Rusbrock, qui va aussi le guider, qui est parfois dans les fragments, mais qui va le guider en effet aussi vers cette apothéose de sagesse qui souhaite, et là dans l'extrait qu'on a entendu, c'est le début du fragment, oui. Du NVS.
Il faut dire qu'on n'a pas lu, je le précise pour les auditeurs et auditrices, que les fragments à chaque fois se décomposent en 1, 2, 3. Là on ne les a pas fait entendre comme une continuité, mais il y a comme une montée en fait dans la démonstration.
Exactement, et là on est au début de la démonstration et on entend très bien le théâtre intérieur de Barthes qui est en train de saisir son NVS qui nous fascine, rien que parce qu'il s'appelle NVS en fait, c'est déjà, c'est envoûtant. Et donc on découvre avec Barthes ce NVS et là on se dit mais merveilleux, je vais pouvoir accéder à cette sagesse de l'Orient, on suit Roland Barthes et puis toujours génial, on écoute sa démonstration, il nous dit mais est-ce que c'est pas une feinte ? Est-ce qu'on n'est pas en train de se piéger nous-mêmes ? Barthes, c'est un homme de théâtre, il a beaucoup animé de théâtre à la Sorbonne, au Sanatorium, il connaît la manière dont on peut se duper, se piéger nous-mêmes. Il le dit à d'autres moments, on cherche une sortie, une sortie théâtrale, je m'en vais, j'en peux plus de cette histoire, il faut que ça s'arrête, il dit. Il dit, est-ce que le NVS, c'est pas non plus une tactique où on va se duper, on va faire semblant d'abandonner l'autre ?
Mais on les connaît ces stratégies en plus,
bien
Laurent
sûr.
Joseph. Le moment où on dit, je décide que
j'arrête.
Ça m'intéresse pas, je supprime le numéro de téléphone.
Je n'écrirai pas une lettre de plus.
Ouais, je n'écrirai plus. Je ne répondrai pas, voilà. Et finalement, en fait, c'est une manière de se mettre dans la peau de quelqu'un qui va mieux, tout en allant pas mieux, tout en étant autant soumis.
Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il poursuit dans le point d'après, dans l'entrée NVS, en disant non, comment je vais pouvoir faire pour que cela ne soit pas une stratégie ? Et c'est très beau parce qu'il dit je laisse le désir continuer à circuler dans mon corps, je ne veux pas renoncer à ma sensorialité, je ne veux pas renoncer à l'expérience du tremblement et du désir, non. Ce à quoi je vais renoncer, c'est au fait de saisir l'autre. Il y a un passage dans les fragments qui m'a surprise, j'allais dire comme femme et comme clinicienne, quand il dit qu'il veut découvrir le corps de l'autre, qu'il a une presse d'amour un peu érotique vis-à-vis de l'autre. Il dit « je veux comprendre l'autre comme les enfants, quand ils veulent comprendre le temps, démontent un réveil ». Je trouve que c'est une image très très forte. Et quand je lis le NVS et la fin de ce point quoi, que les lecteurs vont aller chercher, c'est comme si voilà Barthes il renonce au réveil, il renonce au fait d'aller
démonter
l'autre, le chercher. Donc c'est tous les articles sur l'inconnaissable, que l'autre reste un mystère et qu'il faut l'accepter. C'est ces articles que je nommais tout à l'heure avec vous. C'est-à-dire qu'à chaque moment qui sent une urgence pulsionnelle, on est vraiment tempête et élan, Sturm und Drang de Werther, à tous ces moments où il se sent poussé très pulsionnellement vers l'autre, le NVS, c'est un autre rapport à la pulsion. C'est-à-dire que c'est un moment où l'objet pulsionnel, on le laisse.
Mais est-ce que c'est un choix ?
Je pense qu'il a pu le choix, compte tenu de sa souffrance, et que voilà, Barthes, c'est ce clinicien amoureux aussi, qui cherche, et qui à un moment se dit... Je dois cesser ces élans, cette tempête, parce qu'il y a beaucoup de souffrance quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, et puis ça le confronte aussi, c'est pas pour rien qu'on est dans l'Orient, avec une autre philosophie de la mort, ça le confronte aussi à la disparition, il y a toute une phase, il y a des ombres dans les fragments, il y a l'ombre de sa mère qui est mourante, et puis il y a une scène qui m'est très chère, mais je pouvais pas dire que c'était trop court, c'est le chant 11 d'Ulysse, c'est la Nekouia. Nekouia, ça veut dire cadavre en grec, où Ulysse sacrifie des béliers et ça fait venir ceux qui sont morts. Et donc les compagnons d'Ulysse sont invités à parler pour que Tirésias finisse par parler. Et là, Ulysse peut s'entretenir avec sa mère Anticlée. Et c'est des très belles scènes. Enfin, moi, c'est un des passage de la littérature que j'aime le plus, je crois, peut-être encore plus que les fragments.
Oh, c'est possible.
Mais oui, je crois que c'est possible, parce que cette scène, c'est aussi des pivots des fragments. Cette idée de la voix qui va disparaître, le fading, la voix délavée au téléphone, la voix fatiguée de sa mère qui l'écoute. Et donc, pour revenir au NVS, je pense que c'est aussi une posture, un peu comme le « Je t'aime », autrement bien sûr, mais c'est aussi une posture d'acquiescement, d'acceptation.
C'est-à-dire qu'on reprend la main, non pas sous forme de choix, mais parce que presque qu'on est acculé à laisser faire, en fait,
exactement,
d'une certaine manière.
Et à affirmer l'existence des choses tout en s'en séparant.
Vous avez travaillé sur le silence, oui. Laurent Joseph, vous avez écrit cet essai « Nos silences, apprendre à les aimer ». Barthes dit dans cette entrée qu'il y a un peu une « à les écouter », pardon, j'ai dit « à les aimer ».
Mais je les aime, les silences, donc c'est un lapsus très, très juste.
À la fin de cette entrée sur le non-vouloir saisir, d'une certaine manière, Barthes répond au « je t'aime » puisqu'il dit « je t'aime cette fois-ci dans ma tête, mais je l'emprisonne derrière mes lèvres, je ne profère pas, je dis silencieusement à qui n'est plus ou n'est pas encore, je me retiens de vous aimer. » Finalement, le vouloir saisir, le non-vouloir saisir, c'est aussi se dire « j'arrête de parler, j'arrête d'être dans mes discours, je les garde pour moi ou je respecte le silence de l'autre. »
Oui, c'est exactement ça. C'est très beau le duo entre la phrase que vous venez de dire « je le garde derrière mes lèvres » et en même temps, je continue à laisser le désir circuler dans mon corps. On voit bien, il fait toutes les échelles, en fait, enfin tous les lieux, et ça, on l'a tous ressenti. On peut ressentir quelque chose de très fort pour quelqu'un et pourtant ne plus rien en dire et voilà, et être dans le silence et accepter autrement.
On va écouter encore une fois la voix de Roland Barthes. C'est dans un cours qu'il donnait sur le neutre et que vous citez au tout début de votre livre sur les silences, apprendre à les écouter.
Dans la mystique chrétienne, c'est un point brûlant que celui du silence total de l'intériorité. Car l'Église, comme théologie et comme institution, est essentiellement parlante. Du langage, l'Église en veut, elle en a toujours voulu, elle est insatiable de langage, tandis que le mystique, même si elle le tolère, dans ses marges, dans ses couvents, le mystique est celui qui tend à stopper le langage, à arrêter ce que j'appelle la perpétuité du langage. Vous connaissez la méfiance du zen à l'égard de toute verbalisation théorique. Ça n'est pas une religion, ça n'est pas une sagesse, il est difficile de dire ce que c'est. En tout cas, c'est un plan de conduite sans livre. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de livre, et il n'y a pas de parole. Enfin, bien sûr, le Tao, Lao Tzu a dit « Celui qui connaît le Tao n'en parle pas. Celui qui en parle ne le connaît pas. »
On retrouve donc l'influence du Tao chez Barthes. C'était une séance du 25 février 1978. Le silence, il en est beaucoup question dans les fragments d'un discours amoureux, notamment par exemple quand on est dans l'impossibilité de nommer l'autre, la joie qui empêche la parole, j'en ai noté plusieurs, fatigue et silence au téléphone, silence au je t'aime, acculer l'autre au silence dans une scène de ménage, le silence qui émane des banalités, des loquels, des futilités. Mais est-ce qu'un silence tel qu'il le décrit là est véritablement possible? C'est-à-dire un silence non pas qui mette en avant la parole, non pas qui soit un autre type de signifiant, mais qui vraiment ne dise rien.
Oui, alors, C'est magnifique déjà cet extrait, ouais. Quand il dit le point brûlant du silence intérieur, du « il n'y a plus de discours ». J'ai deux manières de vous répondre. La première, c'est le « Siléo », tel qu'il le travaille dans son cours sur le neutre, donc qui est l'année après, c'est un cours de 78, là on est en 77 avec les fragments, donc il a déjà beaucoup travaillé sur le silence, et puis il part vraiment sur quelques cours sur le silence dans son séminaire sur le neutre, et là c'est le mot siléo, et c'est l'idée d'un état de l'être. Il dit « la lune, elle silette » ou « un œuf silette ». Et c'était une expression en latin qu'on utilisait pour marquer la métamorphose d'un objet, la métamorphose d'un état de l'être silencieux. C'est-à-dire que nous, humains, on ne voit pas, mais il se passe des milliers de choses. C'est comme un bourgeon qui est en train de se métamorphoser vers son état de fleur. Nous, on passe tous les jours devant l'arbre, on s'en rend pas compte, et il se passe une infinité de choses. C'est un détail, c'est une posture de détail. On peut pas penser le Tao et le Zen si on pense pas une posture de réception du monde. C'est quasiment une posture phénoménologique, en fait. Et donc, ce NVS, il est lié à une forme de silence parce qu'il se compense par une observation très poussée. Il écrit à un moment « Je m'assieds », c'est dans les fragments, « Je m'assieds et je regarde avec sérénité le monde ». Il y a quelque chose d'un immense apaisement, d'une déprise finalement, et il le nomme souvent le renversement mystique. Et ce renversement mystique, c'est enfin le moment où on ne parle plus, où cette machine infatigable du langage qui est à l'œuvre lorsque nous sommes aux prises avec la passion amoureuse, cette machine infatigable du langage, enfin, elle se tait. Et il y a un deuxième silence intérieur, là, qui n'est plus le NVS, mais un point du silence que je développe dans le livre, qui est le silence de la mélancolie, et qui va être proche de celui de l'homme qui dort, de Pérec, c'est-à-dire la renonciation au langage. C'est ce moment où on croit que plus aucun mot ne va refléter notre état. C'est le moment où on abandonne.
Mais là, c'est presque de l'abattement.
Ah bah là, c'est au-delà de l'abattement. C'est la mélancolie, c'est l'abandon, c'est les dernières pages du journal de Virginia Woolf où le mot silence est très présent.
Donc on n'est pas dans la sérénité.
On n'est plus dans la sérénité, on est dans l'abandon.
Dans la
souffrance. Mais ça fait partie des points brûlants aussi, de la disparition des textes intérieurs.
Can't stand you lonely. Can't stand you lonely. Seems you cling to me only. Gonna get rid of you someday. Ever since she left, you took her place immediately. But she was loving, oh, she was so kind. You're no good, lonely, I'll get you out of my mind.
Cette chanson, Laurent Joseph, pour introduire cette séquence de fin d'émission, vous avez évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie. Je le redis, fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes, si on n'avait pas compris. Place maintenant à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais que vraiment, décidément, vous n'aimez pas.
Alors oui, c'était une question difficile parce que j'aime beaucoup lire et je suis curieuse, donc je cherche, mais c'est vrai qu'il y a...
Ah, il y a quand même des livres qui tombent des mains.
Exactement, il y a une auteure que j'ai mis beaucoup de temps à aimer et dans laquelle j'arrive à entrer davantage aujourd'hui, c'est Colette. Je pense que j'ai été déjà victime de mes études de philosophie où on nous a éduqués au concept, à la difficulté, à la résistance des concepts, à la recherche formelle. Et je crois que j'ai pas réussi à me laisser faire au début, par la sensualité de Colette.
Vous la trouviez par un sa petit liberté. Peu mièvre, par exemple.
Ouais, je me suis vraiment complètement trompée sur toute la ligne. Et aujourd'hui, je la relis, notamment Sido, et je la relis dans sa capacité, au-delà de la liberté biographique qu'on lui connaît. Mais ce que j'aime, c'est de voir à quel point, justement, son corps se laisse parcourir par la nature, son lien avec les animaux aussi, dans sa maison de Saint-Sauveur. En fait, je trouve qu'elle a une porosité, qu'elle a un lien à l'enfance, à l'existence, à l'aube. Et je le découvre aujourd'hui, seulement aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qui s'est passé selon vous ? Alors parce que là, en fait, vous ne tarissez pas d'éloges finalement sur Colette. Donc vous ne faites pas vraiment l'exercice. Là,
alors je reviens, quand je me souviens, j'avais fait un mémoire de psychologie, je crois que c'était mon mémoire de maîtrise sur la solitude. Et j'avais lu des livres de Colette et en fait, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à la rencontrer. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait nous dire. J'étais étrangère. Mais comme une fille trop urbaine qui comprend pas ce qui peut se passer à Saint-Sauveur-en-Puisaye, j'étais résistante. Voilà, restais collée à mon bitume et il y avait quelque chose qui ne me parlait pas du tout, en fait, dans son rapport à la nature. Et peut-être que c'est le fait de vieillir, d'avoir désormais un chien chez moi depuis 2 ans.
Et d'avoir découvert la vie des animaux.
D'avoir découvert la vie des animaux. Non, mais je suis très sérieuse. Hein, je pense qu'il y a quelque chose dans l'animalité, la loyauté vis-à-vis des animaux et le soin qu'on leur donne, qui est différent de la manière dont je m'occupe de mes enfants, qui est tout autre chose dans la vulnérabilité, la réputation, la loyauté. Et je pense que c'est peut-être pour ça, et aussi parce que il y a des gens autour de moi qui aiment très très profondément Colette, et je pense qu'ils m'ont aidée, ils m'ont accompagnée.
Est-ce que vous pensez que vous allez développer maintenant ce type d'amour-là pour Colette, ou quand même vous resterez moins amoureuse de Colette que les gens qui vous ont aidé à y rentrer dedans? Est-ce qu'on peut aimer d'amour fou un auteur qu'on découvre un peu plus tard finalement?
Alors peut-être. Je sais pas si j'aimerais d'un amour fou Colette. On ne
peut pas prédire l'avenir encore.
On ne peut pas. Je reviendrai bientôt pour vous en parler. Mais je sais pas. Là, en ce moment, je suis vraiment en train de la découvrir, de la travailler, de travailler son enfance. Mais vous voyez, c'est tout de suite, je la travaille. Travaille son texte. Et je pense que, ça fait partie de mes nombreux défauts.
Vous ne pouvez pas lire un texte pour le plaisir.
Je commence à y arriver. Je commence à y arriver, mais j'ai été un peu déformée.
Ouais. Et par quelle œuvre avez-vous commencé, Colette ? Parce que moi, ce qui me frappe avec Colette aussi, c'est que c'est une œuvre qui accompagne. On avait reçu à ce micro Chantal Thomas qui avait choisi Colette et qui avait choisi non pas une, mais 3 œuvres de Colette qui l'ont accompagnée à différents moments. Donc, Claudine à l'école et puis jusqu'au Fanal Bleu qui était son dernier livre, où là, en fait, c'était le livre de la vieillesse. Il y a des auteurs qui nous permettent quand même de nous accompagner comme ça.
Exactement. Et d'ailleurs, je l'ai écouté cette émission et j'ai une immense admiration pour Chantal Thomas. Donc en plus je me dis, mais Chantal Thomas qui choisit Colette, il y a quelque chose à explorer, il y a quelque chose que j'ai loupé. Et je pense que oui, Colette, comme Virginia Woolf, qui pour moi résonne énormément, et justement elle, de la lire sa biographie, j'ai hésité à proposer peut-être un Virginia Woolf, mais je me suis dit que c'était trop grand pour moi. Et faire Vers le phare, par exemple, c'est quelque chose qui m'accompagne, que je vais relire souvent. Vous voyez, donc je suis d'accord avec cette idée qu'il y a certaines auteurs, certaines autrices qui vont nous accompagner toute notre vie. Alors pour l'instant, moi, il y a eu beaucoup de moments Roland Barthes.
On voit d'ailleurs, parce que d'ailleurs le non-vouloir saisir, c'est ça, c'est une continuité.
Exactement, c'est une continuité. Je pense pas que ma continuité s'inscrira avec Colette. Je pense qu'il y a eu des moments dans mes études philosophiques qu'on fabriquait trop de résistance, en fait, de ma part. Je pense que je vais m'assouplir un peu et je continuerai, je pense, avec elle.
Merci beaucoup, Laurence Joseph. De vous, on peut donc lire Nos silences, apprendre à les écouter aux éditions Autrement. Pour lire Fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, vous pouvez le trouver aux éditions du Seuil. Un grand merci à Manon Delasselle et à Corinne Amar, à Riyad Kera à la réalisation, à Jérémy Kaufmann à la prise de son, à qui je souhaite un très bon anniversaire. Et toutes les émissions du Souffle de la Pensée sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.